Europe 1.
17h, 18h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1, c'est Clap, votre rendez-vous cinéma. Et cette semaine, nous sommes ravis de vous accueillir depuis la Croisette pour une spéciale Festival de Cannes. Alors nous sommes en plein air sur une terrasse qui surplombe la mer, c'est pour ça que vous entendez un peu de bruit d'ambiance. Et dans quelques instants, nous recevrons Benoît Magimel, Romain Duris, Adèle Exarchopoulos, mais aussi Mai Wen, Benjamin Laverne ou encore l'immense Martin Scorsese. Un gros programme en perspective à mes côtés pour vous faire partager leur coup de cœur et leur temps fort aussi du Festival Médium. Maïs et Didier Alouche, bonjour à tous les deux.
Salut Laurie, on est bouche bée face à ce programme, qu'est-ce que tu veux que je dise?
Salut Laurie, salut à tous, moi je vais faire une émission de radio sur une terrasse avec vue sur la Méditerranée, c'est merveilleux.
Franchement, et en plus, alors, faut quand même préciser pour nos auditeurs, on est à quelques heures de la cérémonie de clôture, à peine. À
une encablure.
Vous êtes quand même un peu fatigué parce que vous avez 2 semaines de festival dans les pattes.
Ah, un petit peu.
Parce que j'ai jamais eu autant de vaisseaux pétés dans les yeux.
Parce qu'expliquez-nous très rapidement, quel est votre programme à Cannes?
Oh bah c'est
type, c'est quoi?
Très simple, matin, première projection 8h30, deuxième projection 11h, ensuite conférence de presse, plus une autre conférence de presse, ensuite des rendez-vous, après il y a toujours un pote qui t'attrape dans la rue, tu fais quoi ce soir? Bon, on va manger, et ensuite oui, tu vas voir un autre film,
mais
et après
tard,
une soirée,
on
dîne très très tard, voilà, et puis
ça.
Un autre film avant de se coucher, et il est 2h du matin, et on se réveille le matin à 6h30.
Voilà.
Exactement. Si je devais résumer le truc, c'est Forrest Gump. On devient tous des Forrest Gump, on court partout en essayant de catcher les conférences de presse qu'anime Didier.
Et j'ai avec
assisté
talent.
Avec talent. Il était à côté de DiCaprio la dernière fois.
Avec du café surtout.
Tout le monde l'a envié, évidemment.
Alors, quand même, hein, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on voit beaucoup de films à Cannes, mais tout ne s'arrête pas pendant le Festival de Cannes. Il y a quand même une actualité des sorties salles. On va parler de quoi en dernière partie d'émission?
Ah, ben L'amour et les forêts de Valérie Donzelli avec Virginie Efira. Que j'adore, voilà.
Et de la petite sirène, vous savez, Under the Sea, Under the Sea. Je vais arrêter.
Chez nous, on dit sous l'océan. Voilà pour le programme de Clap qui commence maintenant.
Clap, depuis le Festival de Cannes sur Europe 1. Laurie Choleva.
La 76e édition du Festival de Cannes s'achève donc ce soir avec la présentation hors compétition du prochain film des studios Pixar, Élémentaire. Une bien belle édition, hein, faut le dire, qui a été marquée par plusieurs temps forts et c'est pour ça qu'on va tout vous dire. Je suis toujours en compagnie de Mehdi Omaïs et Didier Alouche. Vous vous sentez comment en ce dernier jour de festival ?
Moi, je suis claqué au
soulagé,
sol.
Soulagé, hein. Triste, ah, nostalgique.
Évidemment, en fait, c'est Cannes, on y pense tellement en amont, on le rêve, on l'espère, et puis on y arrive. Et c'est un tourbillon absolu, comme on l'a dit précédemment. On court, on voit des stars, mais des stars, là vraiment, Cannes a offert parmi les plus grosses stars du monde. On a eu du DiCaprio, Kate Blanchett, Martin Scorsese, et j'en passe.
Harrison Ford.
Là, je suis un peu fatigué, donc j'ai la mémoire qui flanche. Mais en tout cas, c'était un festival de paillettes, et moi, mes yeux ont brillé. Même s'ils sont fatigués.
Wow. Et moi je suis ravi parce que c'était une belle sélection, très diverse, très variée, où on a vu vraiment de tout avec des films, bon alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça c'est Cannes et c'est le jeu, mais la qualité était au rendez-vous et quand les films sont bons, moi je suis toujours content, même si je prendrais bien une semaine ou deux de sommeil.
Bah, vous pouvez là, vous allez repartir à Los Angeles. Ouais. Nous en tout cas, on est content de vous avoir à nos côtés, Didier Alouche.
Et ben moi je suis ravi d'être là.
Moi aussi parce que c'est toujours sur Twitter que
et
je le lis
ça.
Et là je le vois en chair et en os,
c'est
extraordinaire comme expérience. C'est mieux que DiCaprio.
Mais je suis d'accord, c'est notre DiCaprio à nous. Vous avez bien un peu, vous avez bien fait de venir. En tout cas, on a eu de la chance, le soleil est au rendez-vous pour cette deuxième semaine de festival. Alors, je le disais, hein, plus que quelques heures avant de connaître le lauréat, la Palme d'Or de cette année, ça nous laisse le temps donc de faire un récap. Samedi dernier, au moment où on a fait l'émission, on était à quelques minutes de la montée des marches du film événement, hein, faut le dire, de cette quinzaine, Killers of the Flower Moon, le film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Une montée des marches historique et c'était très très émouvant.
Oui, c'était très fort pour plusieurs raisons. D'abord, c'est le nouveau film de Martin Scorsese. Il n'est pas venu depuis très très longtemps. Et puis, il revenait avec Robert De Niro pour la première fois depuis Taxi Driver, depuis 1976, où
exactement.
Il avait gagné la Palme d'Or. Et tous les deux étaient là, après, comme il l'a dit à la conférence de presse, dans une époque d'avant, dans un autre monde, comme il l'a dit. Et là, il revenait dans le monde d'aujourd'hui, après 40 ans de carrière extraordinaire pour tous les deux. C'était un moment extrêmement fort. Et il y avait évidemment DiCaprio, et ainsi que tous les représentants de la nation Osage, les Indiens représentés dans le film que vous verrez très bientôt. Je crois que c'est en octobre la sortie en France.
Oui, alors c'est bien de repréciser que c'est un film Apple, mais qui sortira également au cinéma. Et oui, le film parle de ce massacre, hein, de la tribu Osage.
Et moi, ce que j'aimerais juste rajouter, c'est que Scorsese est avec deux de ses acteurs fétiches de deux générations différentes, DiCaprio et De Niro. Et ça, c'est hyper beau parce que, outre le symbole, c'est plusieurs générations de cinéphiles qui se retrouvent autour de ce trio-là. Et moi-même, qui ai eu la chance d'assister à la conférence de presse que Didier a animée, les voir rentrer dans une pièce ensemble, les trois, franchement, c'est un moment qui restera gravé dans ma mémoire, clairement.
Et puis la magnifique standing ovation. Hein. Le film a été très, très bien accueilli. Je crois qu'il y a
10 minutes de standing ovation.
Exactement. Exactement.
The Osage took their name from Missouri and Osage Rivers. Niukanska. Children of the Middle Waters.
Et bien justement, à l'occasion de cette présentation du film à Cannes, nous avons eu la chance de rencontrer Martin Scorsese et il nous explique comment il a construit ce personnage d'Ernest qui est joué par Leonardo DiCaprio.
En fait, dans le livre, il y a très peu de choses sur Ernest. C'est l'un des problèmes que j'ai eu. J'ai dit d'accord pour Ernest, mais alors qui est-il vraiment ? On a énormément de détails sur Bill, sur Molly, sur la famille et sur tout le monde, mais rien sur Ernest, parce qu'il a juste été interrogé par la police plus tard, et c'est dans le livre. Ils lui ont demandé ce qu'il faisait, s'il avait un travail, et non. Alors ils lui ont demandé comment il vivait, et il a juste répondu « Eh bien, ma femme est riche.
» So we invented everything.
J'ai donc inventé tout son personnage en me basant évidemment sur certaines choses que j'avais lues dans le livre et sur ce que la plupart des Osages m'avaient dit. C'est eux qui m'ont fait remarquer qu'il s'agissait en fait d'une histoire d'amour. Avant de tourner le film, j'ai dîné avec environ 150 Osages et ils m'ont dit « N'oublie surtout pas qu'Ernest aimait Molly et que Molly l'aimait. » C'est ça la vraie tragédie. The real
tragedy. Et quelle tragédie! Alors, Martin Scorsese, est-ce que vous pouvez nous révéler comment vous avez joué avec les codes du western?
J'aurais aimé en faire plus parce que j'aime ce genre de cinéma. Mais le western a disparu maintenant, n'est-ce pas? Le western était une figure de l'Amérique du XXe siècle et il n'existe plus aujourd'hui. Mais les codes du western, le style, sur le tournage, j'étais très excité quand je voyais des chevaux. Je ne voulais pas trop m'en approcher, mais j'étais très content. Vous voyez, les chevaux très agités, les cow-boys et tout le reste. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au départ, je m'imaginais un saloon ou un bar où j'aurais de grandes scènes. Mais en fait, l'état de l'Oklahoma interdisait l'alcool et même avant la prohibition. Donc finalement, toute l'action du film se passe dans des maisons, des magasins, très loin de la tradition du western et du saloon. J'aurais bien aimé, mais ce n'était juste pas le cas. Malgré ça, j'ai essayé autant que possible d'inclure des éléments du western traditionnel.
Et c'est très réussi. Alors dernière question, Martin Scorsese. Pourquoi est-ce que vous avez tenu à ce que ce film soit présenté hors compétition ?
Vous savez, c'est au tour des autres maintenant. Il faut savoir laisser sa place. Il y a la nouvelle génération, des jeunes, d'autres personnes et tout ça. J'adore les petites statues dorées et les prix, j'en suis très reconnaissant. Mais maintenant, je pense au temps qui passe, à l'énergie et à l'inspiration. C'est ça le plus important.
Move, said the great white father. There are many, so many hungry wolves. Can you find the wolves in this picture?
Voilà Martin Scorsese au micro d'Europe 1. Et puis comme l'a dit Mehdi tout à l'heure, Didier, vous avez eu la chance d'animer la conférence de presse. Ils sont comment en vrai?
Bon, écoutez, c'était oui, ils sont déjà adorables. Et puis en plus, c'était un moment extraordinaire. Enfin, Mehdi l'a dit, c'était pas le cinéma qui était là, c'était la légende du cinéma qui était là. Il y avait Martin Scorsese, il y avait Robert De Niro, il y avait Léo DiCaprio. C'était extraordinaire. C'était un moment où j'ai une chance incroyable. Et puis il y a une vraie émotion. Au début, je leur ai juste demandé. On parlait de cette standing ovation. J'ai juste demandé à Martin Scorsese ce qu'il ressentait à ce moment-là. Il avait les larmes aux yeux, quoi. Il avait vraiment. J'étais ravi d'être là. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas eu un film à Cannes. Et on sent évidemment que c'est la fin de sa carrière, il a 80 ans, il aura d'autres films, je l'espère, mais il avait vraiment cette émotion-là, ils l'avaient tous, et puis après on est rentré plus dans le détail du film, plus dans la description de ce qu'est le film vraiment, et moi je trouve que c'est un film extrêmement fort, donc j'ai trouvé ça vraiment passionnant, et puis quand j'en parle là maintenant, je me dis, j'en ai encore des petits frissons quand même.
Alors on en reparlera évidemment dans Clap au moment de la sortie du film, brièvement Mehdi,
j'aurais aimé partager autant l'enthousiasme de Didier, moi je trouve que c'est un très beau film, il y a du cinéma à tous les étages, à tous les angles, mais 3h26, est-ce qu'on est sérieux? Je trouve que resserré avec une heure en moins, ça aurait été plus percutant et la dramaturgie en serait sortie grandie.
L'interprétation de DiCaprio.
Ah non, mais ça sonne, c'est un.
Voilà, DiCaprio on est quand même d'accord.
Et c'est important de dire que ça faisait longtemps que De Niro n'avait pas été aussi bon, vraiment.
C'est vrai. On se souviendra également, hein, puisqu'on brasse un peu tous les événements de cette quinzaine, de l'émotion aussi d'Harrison Ford, hein, qui a, on en a parlé samedi dernier, mais c'est bien de le redire, qui a été mis à l'honneur à l'occasion de la présentation d'Indiana Jones 5. Et puis samedi soir, juste après la présentation du film de Martin Scorsese, il y avait un autre événement de cette quinzaine, Natalie Portman et Julianne Moore, accompagnées de Todd Haynes, leur réalisateur, pour présenter May-December sur les marches du Festival de Cannes.
They're a very beloved part of this community. I can see that. So, what is it you love most about Gracie? She always knows what she wants. She's unapologetic.
May-December, ça faisait partie des films qui étaient assez attendus. Hein. Todd Haynes, généralement, est toujours bien accueilli au Festival de Cannes. Vous avez été déçu?
Non, pas déçu. C'est pas le meilleur Todd Haynes, mais ça reste quand même à haut niveau. Les deux interprètes sont formidables, notamment les scènes entre Natalie Portman et Julianne Moore. C'est quelque chose, enfin, c'est du haut niveau de comédie. C'est vraiment très, très fort. Le film est inspiré d'un fait divers, une histoire entre une prof qui tombe amoureuse de son élève et toutes les retombées que ça a eu aux États-Unis. L'affaire a fait beaucoup de bruit là-bas. Le film en est inspiré. C'est pas directement cette affaire-là. Mais Todd Haynes, évidemment, prend de la hauteur, prend du recul. Du coup, ça donne quelque chose d'assez différent. Il a installé un univers un peu artistique en utilisant la musique du messager, qui est en fait aussi la musique de l'émission de Christophe Ondelat, Faites entrer l'accusé. Donc du coup, les Français dans la salle regardaient ça en disant mais c'est qui l'accusé? Donc ça donnait un petit peu de recul là-dessus. Mais c'est pas le meilleur Todd Haynes, mais il est très intéressant.
Mais Mehdi, il a été déçu.
Ouais, c'est clairement pas le meilleur Todd Haynes. Moi, j'ai été dès le train. Je disais May-December, parce que Carole et Loin du paradis sont des yin et des yang de ma vie de cinéphile. J'adore Todd Haynes, j'adore son regard, et même quand il va vers le thriller avec Dark Waters, je trouve ça super. Là, j'ai presque l'impression qu'il est trop gentil. C'est un mec trop bon pour faire un film aussi féroce. Et voilà, moi, je suis resté vraiment en marge de ce récit que j'ai trouvé faussement vénéneux.
Il y a un autre film qui a été très applaudi, hein, c'est celui de Michel Gondry avec Pierre Niney, Le Livre des Solutions. Alors ce film était présenté à la quinzaine des réalisateurs et pour beaucoup de journalistes, c'est le film le plus drôle de ce festival. Vous confirmez, Mehdi ?
Mais moi, je tape du pied dès que tu parles de ce film parce que je l'ai découvert donc avec...
Confirme, mesdames et messieurs, il tape du pied.
Non, mais c'est vrai.
Non, mais déjà, Gondry, c'est quand même un petit cadeau lorsqu'il nous offre un film. Ça faisait depuis 2015 qu'il n'en avait pas fait. Et là, mais il prend... Pierre Niney, il exploite son génie comique absolu pour faire un autoportrait de lui, de ce cinéaste un peu antipathique, un peu fou, qui tempête après tout le monde. Mais en fait, c'est un foyer d'idées, c'est un foyer de poésie. C'est merveilleux, c'est drôle. J'ai ri, j'ai vibré. Tous les gens riaient à gorge déployée. On voyait les gorges des gens. C'était extraordinaire.
Pierre Niney est formidable, comme d'habitude. Alors, Didier Allouche, Mehdi Omaïs, vous êtes à mes côtés pour cette émission. Si je vous demande votre meilleur souvenir de ce Festival de Cannes.
Ben moi, pour parler de Carole, c'est Cate Blanchett qui était assise juste derrière moi à la projection de A New Boy.
Ah bah ça, on a vu passer vos posts. Hein.
Ah ouais, non mais j'en pouvais plus, je me suis retourné, j'ai vu la feuille blanche avec marqué Cate Blanchett. Et j'étais comme ça, je regardais, je me disais, elle va arriver, et puis elle a fini par arriver parce qu'elle devait arriver.
Et, oui,
et là, en fait, c'est pas Cate Blanchett, lorsqu'elle rentre dans une pièce, elle n'entre pas, elle apparaît. C'est une apparition presque divine. Et là, je suis resté là et j'ai admiré cette actrice immense qu'on adore tous. Et je pense que Didier était un peu d'accord avec moi.
En fait, je pense que Cate Blanchett se demandait, il est où Mehdi ?
Elle vous cherchait aussi, voilà. Du regard.
C'est vrai qu'il est assis juste devant moi.
Et vous, Didier ? Oh, ben bon, vous en avez mis un paquet.
Oui, mais il y en a un que j'aime beaucoup, c'est à la conférence de presse d'Indiana Jones, j'ai eu la chance de l'animer et j'étais un petit peu en retard, donc je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai fait chanter le thème d'Indiana Jones aux journalistes et tout d'un coup, ils se sont tous mis à chanter. Et c'était juste super. C'était vraiment un moment chouette, un vrai moment chouette du festival.
Vous avez vu l'humilité de Didier qui aurait pu nous dire la masterclass que j'ai animée avec Michael Douglas ou ma rencontre avec Harrison Ford ou avec Leonardo DiCaprio, mais vous parlez d'un souvenir avec les journalistes, j'aime beaucoup. Est-ce que vous avez eu des coups de cœur dans cette sélection tous les deux ?
Bah, au risque de me répéter, j'aime vraiment énormément le film de Michel Gondry. Il mérite vraiment un coup de projecteur immense. Et Pierre Niney est génial. C'est peut-être son meilleur rôle depuis le début de sa carrière. Et vraiment, je passe un moment merveilleux.
Et il y a le film de Justine Triet aussi qui a beaucoup plu pendant ce festival, hein, avec Swan Arlo qui fait partie quand même des favoris.
Justement, Laurie, c'était un de mes coups de cœur. J'en ai eu 3-4 pendant le festival. Il y a le film de Justine Triet qui m'a vraiment surpris. C'était extrêmement bien écrit. Sandra Hüller est extraordinaire dedans. Il y a évidemment le film de Jonathan Glazer, le Zone of Interest, qui est très très dur à regarder, mais qui est un très grand film.
On rappelle le pitch.
Oui, c'est la vie d'un officier allemand qui vit juste devant le camp d'Auschwitz. On ne voit pas le camp, camp est toujours en arrière-plan. Il y a le bruit des prisonniers et c'est très très fort, ça fait très très mal. C'est un très grand film.
On en parle beaucoup pour la Palme d'Or.
Oui, à mon avis, c'est un prix important, peut-être pas la Palme, mais au moins un prix important. Et le film de Wim Wenders qui est passé le dernier jour aussi est vraiment très intéressant. Non, ça a vraiment été un festival, plein de surprises, plein de films qui ne sont pas obligatoirement dans mes goûts tout de suite, mais pour lesquels j'ai eu de vrais coups de cœur et c'est pour ça que je viens à Cannes.
Et puis beaucoup de premiers films aussi cette année, c'est ça qu'on a aimé. Des habitués, des premiers films, des découvertes. La magie du Festival de Cannes, ne bougez pas, Clap à Cannes continue dans un instant en compagnie de Benoît Magimel. A tout de suite sur Europe 1.
17h, 18h, Clap depuis le Festival de Cannes.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes bien à l'écoute d'Europe 1 pour cette émission spéciale Festival de Cannes, puisque Clap s'est installé cette semaine sur la Croisette pour vous faire vivre au plus proche du festival ces temps forts. Et puis surtout, pour vous présenter nos coups de cœur. Et dans nos coups de cœur, il y a Omar Lafraisse qui était présenté en séance spéciale. Merci Benoît Magimel d'être à mes côtés.
Merci de m'inviter.
Alors, est-ce que vous passez un bon festival déjà ?
Excellent, excellent.
Vous présentez cette année 3 films à Cannes, hein, dont Omar Lafraisse, on va en parler, Rosalie dans la sélection Un certain regard, et puis La passion de Dodin Bouffant, qui est un film qui est en sélection officielle où vous jouez aux côtés de Juliette Binoche. Est-ce que c'est toujours une émotion particulière pour vous de venir à Cannes ? Je rappelle que vous avez eu le prix d'interprétation aussi pour La pianiste, vous avez présenté Pacifiction à Cannes, enfin voilà, un habitué du festival.
Oui, bien sûr, il y a une couleur particulière. Cannes, il y a une effervescence, il y a une énergie, il y a un amour du cinéma. Que ce soit le public, les gens viennent ici pour parler cinéma, rencontrer les acteurs, voir les artistes, voir les films. Il y a un énorme marché aussi.
Il y a tout ce qui se passe en off, bien
voilà.
Sûr.
Et c'est vrai que c'est assez colossal, enfin, on ne se rend pas compte. Et tout le monde vibre à l'idée d'aller à Cannes. Et surtout, les cinéastes qui sont sélectionnés, c'est une chance exceptionnelle pour eux de montrer leurs films au monde entier.
Il y a un film qui est bien accueilli à Cannes et qui a une belle standing ovation. Généralement, ça marque voilà, le début d'une belle histoire pour le film et ça s'est vérifié assez souvent. Alors, on parle d'Omar Lafraisse. Vous jouez Roger, un voyou qui est parti s'exiler en Algérie avec son ami Omar pour le protéger, puisque Omar, lui, il fuit la justice. Et puis finalement, il tourne en rond, Omar. Donc heureusement qu'il a ce Roger à ses côtés, qui est plus positif que lui, qui s'adapte mieux, qui voit le verre à moitié plein.
Oui,
c'est ça, ce personnage.
Oui, c'est à peu près ça, surtout. C'est deux moitiés qui se complètent, quoi. C'est vraiment... Roger, il veille sur son ami Omar Lafraisse. Omar, c'est quelqu'un de sanguin, vif. Il est prêt à faire n'importe quoi pour pouvoir rentrer en France, alors qu'on lui interdit, et il n'aime pas qu'on lui interdise les choses. C'est deux personnages très libres, en fait. Très libres et comme des marmots, comme des enfants. Et qui sont capables du pire comme du meilleur.
Ils sont capables de rigoler en boîte de nuit, mais en même temps de faire preuve d'une violence inouïe. Voilà, ils sont.
Oui, c'est des.
Et en même temps avec une grande morale aussi.
Oui, c'est plein de contradictions en fait. C'est ça qui est intéressant.
Comme l'être humain. Voilà. Ils ne sont pas tous aussi.
Voilà, non, c'est ça, c'est vrai. C'est
aussi
vrai
que. Névrosés qu'Omar et Roger, mais bon.
Il y a peut-être des névroses, ouais. Mais ils ne savent pas ce que c'est. Mais c'est vrai qu'on montre souvent les voyous au cinéma de manière un peu trop lourde, un peu trop sérieuse. Et je pense que c'est quand on s'engage dans une voie comme ça, c'est aussi parce qu'on a pris de liberté, qu'on a envie de jouer de la vie et qu'on a envie de s'amuser. Quoi. Enfin, quand on a un ami comme Roger, je pense, ou comme Omar Lafraisse, on est rassuré parce qu'on n'est pas seul.
C'est Omar, il déprime, il veut rentrer en France.
Mais tu crois que je vais passer ma vie au bord de la piscine où il n'y a pas d'eau ?
Il t'a dit quoi, l'avocat ? Si tu bouges une oreille, tu vas voir, tu vas repartir au placard.
Omar, Roger, Allah, vous êtes deux légendes.
Pourquoi tu me fais des clins d'œil quand tu me parles ? Tu veux me baiser ?
Tu veux le baiser ? On va devenir des entrepreneurs, toi et moi. On va faire de l'oseille.
Dans ce pays, tu veux devenir millionnaire ? Faut commencer milliardaire.
Et c'est aussi un film de dialogue, parfois absurde. Il y a une scène d'ouverture improbable où vous marchez dans le désert, votre personnage et Omar, joué par Reda. Des phrases où Omar lui vous dit « Est-ce que tu crois que je vais passer ma vie au bord d'une piscine sans eau ?» Enfin, voilà, on sent quand même qu'il y a une écriture particulière hein, dans ce film.
Ouais, ouais, et qui rejoint un peu les situations absurdes parfois qu'on peut... Ouais, par exemple, vous parlez de cette piscine. Il y a le type qui répare la piscine qui lui dit « C'est super, tu vas pouvoir t'amuser, c'est bientôt, c'est réglé. » Il n'y a pas d'eau dans la piscine.
Et Omar sait qu'il n'y en aura jamais.
Et voilà, il va attendre.
Le film, il a reçu un accueil incroyable à Cannes, un très très bel accueil. Comment est-ce que vous expliquez l'engouement pour ce film ?
Je pense qu'on parle de l'Algérie, et l'Algérie, c'est un pays qu'on... C'est marrant. On connaît assez mal, finalement.
Et qu'on n'a jamais vu comme ça, filmé comme ça, au plus près.
On ne se rend pas compte à quel point ce pays est magnifique. Et c'est un pays à découvrir. C'est un pays qui peut faire peur, je ne sais pas. Mais on voit la communauté d'origine algérienne en France qui sont nombreux. Je pense que c'est bien de parler de ce pays et de le montrer différemment, voilà. On sent que ça fait plaisir à tout le monde. Et c'est une fracture, ce pays, c'est des tragédies, hein. Il y a eu beaucoup de tragédies. Et malgré ça, là-bas, ils ont le sourire. Et continuer de vivre.
Benoît Magimel, vous tournez avec plein de jeunes dans ce film qui sont incroyables, tous ces comédiens, toute cette jeunesse algérienne. Ils étaient professionnels ? Ils ont été castés là-bas ?
Non. Oui, ils ont été castés là-bas, bien sûr. Mais je ne sais pas si c'était tous professionnels, je crois pas. Non.
Ils étaient comment face à vous, ces jeunes ?
Très respectueux. Ils avaient intérêt.
Impressionnés.
Non, c'était avec Reda. Reda Kateb avait beaucoup plus l'occasion d'être confronté.
D'être avec eux.
Voilà, d'être avec eux. D'ailleurs, c'est à travers ce prisme. C'est la jeunesse qui lui permet de renouer avec ça, avec ce pays. C'est parce qu'il se retrouve finalement dans ces gamins. Donc c'est beau.
Si vous deviez garder une image, Benoît Magimel, de ce tournage ?
C'est la piscine vide. Non, l'image du tournage, c'est... Je me souviens des toilettes que j'avais dans ce car qui ressemblait à une loge et qui était démontable, en fait. Il n'y avait pas de toilettes. Il faut le voir pour le croire, on s'est vraiment marré, on était dans le désert en fait, on a vu... Si, les courses de chameaux, c'était extraordinaire.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi.
Les combats de béliers aussi. Et puis les gens dans la rue, simplement, quoi. Toujours l'accueil. Moi, j'ai été accueilli, les sourires que j'ai croisés, je pense que c'est ça qui m'a le plus impressionné.
Et votre relation avec Reda Kateb et cette alchimie qu'on sent à l'écran ?
Reda, il est venu avec son petit chien... Il a un petit chien et son petit chien m'a aimé tout de suite. Donc il m'a dit, là, c'est un bon début. Non, c'était vraiment... Puis de voir l'histoire du réalisateur avec ce pays, c'était magnifique, c'est magnifique. Les gens ont envie là-bas. Toute l'équipe qu'on avait était extraordinaire. Il y a un désir, il y a une envie de faire... tout le monde se met en quatre pour faire les choses. Et les moyens sont difficiles, quoi. Voilà, mais on y arrive.
Et cette ferveur, elle se ressent à l'écran, ça donne un film extrêmement réussi. Je rappelle donc que Omar Lafraisse est en ce moment au cinéma, un film sur l'amitié, le déracinement, qui est plein d'humour, qui est plein de tendresse, avec énormément d'action. Je vous encourage vivement à découvrir ce film. Merci. Benoît Magimel.
C'était
un vrai plaisir de vous avoir. Ne bougez pas, Clap à Cannes. Continue évidemment dans un instant sur Europe 1.
17h, 18h, Clap depuis le Festival de Cannes.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Bienvenue sur Europe 1, si vous nous rejoignez, c'est Clap, votre rendez-vous au cinéma. Et cette semaine, nous sommes au Festival de Cannes pour vous faire vivre cette 76e édition qui a démarré très fort le 16 mai avec un énorme coup de cœur, la présentation du film Jeanne Dubarry avec vous, Maïwenn, et Benjamin Lavergne, entre autres, puisque vous étiez entouré de toute l'équipe du film. Maïwenn, un très bel accueil pour ce projet que vous portez depuis longtemps. Est-ce que ça a été à la hauteur de vos espérances ?
Oui, j'étais très heureuse, d'autant que l'équipe technique du film avait pu venir. Donc on était en vrai, on était 200. Donc c'était très émouvant de retrouver tous les gens qui ont fait les décors, les coiffures, les costumes. Tous les comédiens étaient là, sans exception. Si, avec une exception, Michel Esco. Il nous a beaucoup manqué.
Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de changer de vie ?
Pour aller où ?
Jean Dubarry veut que je vous présente au roi.
La comtesse Jeanne Dubarry.
Nous sommes devenus la risée de Versailles à cause de vos égarements.
Le Premier ministre ne va pas tolérer que vous laissiez une fille des rues côtoyer votre entourage.
Cette jeune femme est mon entourage.
Moi, j'ai beaucoup aimé dans le film votre relation, le rôle que vous avez donné à Benjamin, celui de la Borde, effectivement, ce majordome qui vous prépare, qui devient votre complice. Comment elle vous a parlé déjà, Maïwenn, du rôle, Benjamin ?
En fait, elle m'a d'abord fait lire. Et je pense qu'elle était assez attentive à la manière dont j'allais recevoir le scénario. Et j'ai adoré la manière dont elle le regardait, dont elle le décrivait, dont elle décrivait chaque regard, chaque émotion, chaque acquiescement. Et ça m'a... J'ai tout de suite compris qu'elle aimait ce personnage, qu'elle aimait le regarder en arrière-plan. Et qu'il existait et qu'il avait un vrai parcours. Donc au début, voilà, il ne fallait pas qu'il soit trop sympathique, qu'il soit mystérieux.
C'est peut-être le personnage que j'ai le plus inventé dans le scénario. C'est-à-dire que c'est une combinaison entre l'histoire de deux valets du roi. J'en ai fait qu'un seul parce que sinon ça devenait trop compliqué. Mais j'ai complètement déliré sur la relation entre Jeanne Dubarry et Laborde. Et puis c'était un personnage que je voulais qui sorte de l'ombre au fur et à mesure du film, qu'on ne le sente pas venir. J'aime beaucoup ça dans les films, quand tout d'un coup il y a un rôle secondaire qui est toujours en figure et petit à petit qui prend ses marques comme ça et qui sort à la fin. Puis il y a un personnage qui m'a énormément inspirée, c'est dans Pretty Woman, le concierge il lui fait des clins d'œil et tout. Exact. Je me dis mais c'est exactement ça, c'est la Borde.
Tu es donc Julia Roberts.
Ah oui, c'est ça. Ah,
c'est quand même c'est ça le message, c'est ça la.
Mais on adore. Ah, attendez,
en toute humilité. Hein.
Oui, mais ça fonctionne complètement. Elle est comment, Maïwenn, sur le tournage en tant que réalisatrice?
Elle est hallucinante. C'est un phénomène.
Oui, c'est une vraie tornade.
Moi, le premier jour, j'arrive donc dans la Galerie des Glaces et elle est avec une robe comme ça, vraiment. Et tu avais tes lunettes et tu étais entre le combo, dirigé 250 figurants.
Ça.
En costume, avec un petit retard de Johnny, on peut le dire, le premier jour. J'ai vu à la fois l'actrice, la metteur en scène, la chef de troupe, parce que c'est quand même ça, c'est un peu... Il faut aller parler au costume, à tous les corps de métier. Et donc, quand même, avec une espèce de puissance, de force, de conviction et de grande détermination, et aussi de chercheuse, parce qu'on cherchait tous les jours. Ouais.
Merci beaucoup. En tout cas, je rappelle que Jeanne Dubarry, c'est en ce moment au cinéma qu'il faut absolument découvrir.
Et puis c'est vraiment un film, alors là...
Qu'il faut voir au cinéma.
Qu'il faut voir sur un écran, un grand écran. Vraiment.
Merci à tous les deux.
Merci.
Clap, depuis le Festival de Cannes sur Europe 1. Laurie Choleva.
Merci d'être avec nous à l'écoute de Clap sur Europe 1. Nous sommes toujours au Festival de Cannes qui s'achève ce soir et j'ai le plaisir de revenir sur un film événement de cette quinzaine. C'est le film qui a fait l'ouverture de la sélection Un Certain Regard. Ça s'appelle Le Règne Animal, réalisé par Thomas Caillet. J'en parle aujourd'hui avec Adèle Exarchopoulos, Romain Duris et Paul Kircher. Merci à tous les trois d'être avec nous.
Merci.
Déjà, comment est-ce que vous avez vécu la présentation de ce film à Cannes ?
Moi, c'était la première fois que je découvrais le film. Les deux, vous l'aviez déjà vu, non?
Ouais.
Du coup, j'avais seulement... Enfin, c'était l'excitation qui avait pris le dessus de découvrir le film. Et pour être super sincère, j'ai tellement pleuré, j'avais un corset que mon dos, il a craqué. Et après, j'ai fini comme ça en pleurant. c'est une chance en plus de le découvrir dans cette salle-là avec l'équipe. Donc moi, j'étais vraiment purement excitée en spectatrice.
Et tous les deux? Donc ouais. Vous l'aviez déjà vu? Ça a fait quoi de le revoir hier, alors, le père et le fils dans le film?
Ça fait 4 ans de travail de ouf sur le film. Et là, c'était un peu la fin de la boucle, quoi. Ouais. C'était aussi l'excitation de l'inconnu, parce que c'était la première fois, moi, je montais
les marches à Cannes.
C'était bien d'être avec Romain et Adèle.
Ouais, c'est beau pour une première montée de marche. Hein.
Après, on espère toujours que les gens, dans cette grande salle, ils ressentent des choses qu'on a effleurées nous-mêmes, alors qu'on a joué dans le film. Hein, mais c'était chaleureux. À la fin, il y a eu des applaudissements très, très forts. On était, c'était beau, c'était un beau moment, quoi.
Le règne animal, c'est vraiment le genre de film qu'on a envie de voir. C'est un film qui surfe sur plusieurs genres. C'est un film différent, c'est dramatique, c'est dérangeant, c'est inquiétant, c'est drôle aussi, surtout à travers votre personnage. Adèle, qu'est-ce qui vous a attiré tous les trois dans cet univers? Est-ce que tout ça, c'était déjà très présent à la lecture du scénario?
Ouais, il y a des différentes strates. Il y a même un côté philosophique. Je pense qu'il va parler à plein de gens différents, ouais. à plein de sensibilités différentes. C'est ouvert, quoi. Et en plus, je pense que c'est un film qui peut se voir plusieurs fois. Et...
Ah, parce que oui, c'est vrai que c'est quand même très, très dense. Alors, sans trop en dire, hein, Paul, vous avez quand même un rôle assez difficile, moi, je trouve. Et déjà, bravo pour cette prestation qui va crescendo tout au long du film, tout en nuance. C'est un rôle physique aussi. On vous voit courir, sauter, plonger, nager. On vous voit dans tous vos états. C'est un tournage ou un bootcamp pour vous?
Un bout de quoi?
Un bout de camp.
Un bout de camp, c'est quand tu fais de l'entraînement intense. Ouais,
en vrai, c'est vrai que c'était intense. C'est vrai qu'à partir du scénario, ensuite, il y avait beaucoup de choses à imaginer sur tout ce qui est de l'univers fantastique. Et je trouve que Thomas, il a réussi vachement à nous transmettre sa vision de cet univers fantastique. Et ouais, on a beaucoup travaillé sur le corps, on a beaucoup. Et c'était chouette à faire.
Ce qui est beau, c'est qu'il y a effectivement cette relation au centre du film très forte de ce père avec son fils. Et en même temps, il y a votre personnage, Adèle. Vous êtes épatante parce que vous arrivez à devenir essentiel, c'est-à-dire que ce personnage, il amène la touche comique, les petits moments aussi de respiration, de légèreté, parce que je le disais, ce film, il est quand même dense, et puis le fond du film est quand même assez dark. J'imagine que ça vous a plu, on vous avait déjà vu dans ce registre un peu clownesque.
C'est vrai que moi, sur ce film, j'étais comme une enfant, parce que vu que c'est vraiment une frontière entre le réel et le fantastique, et c'est un monde dans lequel, c'est une société dans laquelle les humains sont en mutation, où leurs instincts animaux peuvent se développer et qu'on dirait comme une forme de maladie pour certains et d'autres un ordre presque naturel. Du coup, je trouve que ce décalage, enfin cette mutation permet beaucoup d'espace d'humour. Et il y en a dans mon personnage. Après, pour être super sincère, moi, je m'étais battu. Il n'y avait pas encore Tom Mercier. Mais quand j'avais lu le scénario, mon rêve, c'était de faire l'homme-oiseau.
C'est
vrai. J'ai rendu fou Thomas. Je disais, je t'en supplie, laisse-moi juste faire un casting, s'il te plaît. Après, tu ne me calcules pas, mais juste, j'essaye. Et il a trop eu raison de pas m'écouter.
Et oui, Tom
c'est
Mercier,
vrai,
il fait un
aigle. Ce personnage, en plus de ça, que ce soit Tom Mercier, j'ai découvert en lisant le dossier de presse que beaucoup des bruits qu'il fait, c'était sur le plateau.
Ouais, ouais non, c'était impressionnant.
Non, mais c'est fou.
Qu'est-ce qui se passe?
Un civil et son gosse, adjudant. Il cherche sa femme. C'est une bestiole, enfin, une créature.
Une victime. Adjudant Julia Esquerdo. On va s'occuper de vous, monsieur. Est-ce que vous m'entendez?
Papa. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le véhicule a quitté la route. Un arbre est tombé sur la chaussée avec la tempête. Comment elle s'appelle, votre femme?
Marana Zlada.
Qu'est-ce que vous diriez pour encourager les gens à aller découvrir ce film en salle? Et d'ailleurs, je tiens à souligner, c'est vraiment un film de cinéma. C'est un film qu'il faut découvrir sur grand écran.
Ouais, c'est vrai. Et je trouve que c'est aussi un film de famille. Moi, je me disais ça hier en le découvrant. Je me disais, tiens, ça va plaire à mes frères, à mes parents. Mais qu'est-ce que je dirais? Romain, vas-y.
C'est un film sublime. Non, franchement, c'est un film sublime. Il y a quelque chose de très intime et de très d'immense.
Et fait qu'on plonge vachement dans le film, c'est le côté fantastique et voilà. Comique. Parce qu'on rigole à fond et on prend du spectacle à de malade, quoi.
Romain Duris, Adèle Exarchopoulos, Paul Kircher, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que Le Règne Animal sortira en salle le 4 octobre. Évidemment, on aura l'occasion d'en reparler dans Clap puisqu'on a beaucoup aimé ce film. On va tout de suite écouter une artiste qui était d'ailleurs sur la croisette il y a quelques jours puisqu'elle joue dans le film Rosalie aux côtés de Benoît Magimel ou de Nadia Tereskevich. C'est Juliette Armanet. Tout de suite, Qu'importe sur Europe 1 et on se retrouve dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.
Clap depuis le Festival de Cannes sur Europe 1. Laurie Choleva.
Qu'importe si tout entre nous entame, qu'importe si tout entre nous enflamme, qu'importe si tout nous met à genoux, moi je n'oublierai jamais. Qu'importe si tout entre nous entame, qu'importe si tout entre nous enflamme, qu'importe si tout nous met à genoux.
Tout le temps qu'il faudra tuer, dans tous mes draps, tous mes états, dans tous les miroirs, si à moi, passe les ratures, passe les futurs, sur le piano, les chevelures.
Armanet, Qu'importe sur Europe 1. Nous sommes toujours au Festival de Cannes pour vous faire vivre cette 76e édition depuis La Croisette. On vous présente les étoiles du cinéma, mais Isabelle Morizet, elle va vous présenter une étoile tout court. C'est François Allu qu'elle reçoit dans son émission dimanche à 14h. Il n'y a qu'une vie dans la vie. Tous les samedis et dimanches, Isabelle Morizet fait tomber le masque et révèle aux auditeurs d'Europe 1 les mille et une facettes de la personnalité de son invité. Ce sera donc François Allu dimanche à 13h, soyez au rendez-vous. Dans un instant, c'est Virginie Efira qui sera à nos côtés pour continuer cette émission spéciale Festival de Cannes. A tout de suite sur Europe 1.
17h, 18h, Clap depuis le Festival de Cannes.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être avec nous à l'écoute d'Europe 1. Clap spécial Cannes continue et j'ai le plaisir d'être aux côtés de Virginie Efira qui présente deux films en sélection, Rien à perdre et L'amour et les forêts, qui est en salle depuis mercredi. On en parlait la semaine dernière en compagnie de Valérie Donzelli et Melville Poupeau. Alors Virginie, est-ce que c'est agréable de savoir qu'un rôle a été écrit spécialement pour vous? Est-ce que ça rajoute une pression supplémentaire?
Oui, bien sûr, ça l'est. Surtout si ça vient d'une personne avec qui vous aussi, parce que en général, quand on a une sorte de coup de foudre comme ça, c'est que l'autre le ressent aussi. Mais moi, je connaissais tous les films de Valérie depuis La Reine des Pommes. Donc j'adorais son cinéma. Et avec quelque chose, et c'est vrai que c'est peut-être quand on a tourné ensemble comme comédienne toutes les deux, où on est rentré dans un dialogue un peu plus intime ensemble, et je me disais qu'il y avait suffisamment de choses entre mon admiration pour elle en tant que réalisatrice et ce que je pouvais pressentir d'une intimité partagée pour faire quelque chose.
Virginie Efira, il y a des scènes assez violentes, de la violence physique, de la violence psychologique. Comment est-ce qu'on aborde ces scènes quand on est actrice ?
Moi, il y avait vraiment des moments sur les scènes où ça, c'était comme des attractions à la foire, là, le petit train des horreurs. Quoi. Il y avait quelque chose comme les prises sont très longues et qu'il y a tous les éléments, c'est-à-dire d'écriture, le partenaire, l'implication de Valérie, la lumière, pour vous faire croire à ce que vous existez. Vous-même, vous convoquez une sorte de croyance en ce qui se passe là, qui fait qu'entre action et coupée, bon, ben là... Mais ce qui est super, c'est qu'après, il y a l'énergie de Valérie avec quelque chose d'extrêmement doux... qui permettait, et le rapport à mon partenaire aussi, à Melville, que je connaissais aussi.
C'est ce que j'allais dire.
Quelqu'un d'extrêmement, oui, ce que je disais, de doux, de gentil, et qui disait qu'on était dans une représentation, et quand il y a coupé, on peut.
Il faut qu'il y ait une grande confiance en son partenaire quand on joue de telles scènes, hein, d'intensité, de torture psychologique.
Oui, oui, oui. Une confiance d'abord dans le metteur en scène, sur ce qu'il veut voir, sur comment il regarde cette chose-là. Et après, pour pouvoir aller plus loin, enfin, pas plus loin, mais loin comme ça doit l'être, il faut quelqu'un avec qui on n'a pas de précautions à prendre, parce que c'est implicite, parce qu'on se connaît, parce qu'on sait. Il n'y a jamais, c'est comme sur les scènes d'amour et tout ça, si on sent qu'on pourrait gêner son partenaire en faisant ci ou ça, que... Enfin, voilà, du coup, on fait attention à la pudeur de la personne et pas du personnage.
Bien
voilà,
sûr.
Donc ça, il n'y avait pas avec Melville.
Tu te plains de ton mari ?
Pourquoi tu fais toujours que je me plaigne de toi ?
Pardon, excusez-moi.
Pourquoi tu m'as raccroché au nez ?
J'étais en cours.
Tu rentres à quelle heure ?
17h, pourquoi ?
Il t'appelle tout le temps, ton mari, hein ?
Oui, c'est comme ça. Bah, t'es complètement fou.
Je te parle, mais tu réponds pas. J'ai réfléchi et on va rester là pour Noël, hein. C'est beaucoup plus simple. T'as besoin de voir du monde ?
On a besoin de voir personne, on est bien tous les deux. Que pour moi.
Merci beaucoup Virginie Efira d'avoir partagé ce moment avec nous, l'amour et les forêts. Je rappelle que c'est en ce moment au cinéma, vous jouez aux côtés de Melville Poupeau, un film réalisé par Valérie Donzelli. Et tout de suite, je me tourne vers Médiomaïs et Didier Allouche qui sont à mes côtés depuis le début de cette émission. Et on va, c'est la tradition, puisque même si nous sommes à Cannes, le cinéma ne s'arrête pas pour autant, vous parler des films à voir ce week-end au cinéma.
Clap depuis le Festival de Cannes.
Laurie Choleva sur Europe 1.
On continue tout de suite de parler de l'amour et des forêts dans notre journal des sorties, car oui, festival ou non, hein, on l'a dit en début d'émission, on ne perd pas nos bonnes habitudes et on vous dit tout sur les films à découvrir cette semaine au cinéma. Mehdi Omaïs et Didier Allouche sont revenus, merci d'être là. Alors l'amour et les forêts, c'est le film de Valérie Donzelli que nous recevions d'ailleurs la semaine dernière en compagnie de Melville Poupeau et on vient d'en reparler avec Virginie Efira. Virginie Efira qui joue le rôle d'une femme totalement sous l'emprise de son mari abusif incarné par Melville Poupeau, un thriller prenant. Il y a beaucoup de tension tout au long du film. Vous en avez pensé quoi tous les deux ?
Écoutez, moi j'ai deux mots pour parler de ce film. Virginie Efira.
Elle est remarquable.
C'est incroyable comment elle prend possession des films dans lesquels elle joue, quel que soit le film, quel que soit son rôle. Elle est ultra présente, elle mange la caméra, elle mange l'écran, elle est formidable, elle est dans ce film-là, elle joue une femme amoureuse qui va dans la deuxième partie de l'histoire, je ne veux pas trop vous en dire, mais il va se passer des choses, et elle, sa transformation est magistrale, elle est vraiment magistrale, c'est une actrice, oh oui, c'est unique.
On l'aime, hein.
Oui, je pense que Mehdi aussi, il l'aime bien.
On perd tous nos mots dans l'émission quand on parle de Virginie Efira.
Non, mais c'est extraordinaire, c'est vraiment, bon, au-delà du fait que ça soit une extraordinaire actrice, elle a aussi une intelligence de jeu, elle a une capacité à prendre ce rôle à bras-le-corps. Moi, j'avais vraiment l'impression d'être une femme sous l'emprise d'un homme pendant tout le film. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Valérie Donzelli a réussi à se débarrasser de tous ses tics un peu esthétiques ans qu'elle avait. Même si j'aime bien La guerre est déclarée ou La reine des pommes, là on a un film qui est beaucoup plus resserré, très Hitchcockien dans le rythme. Et elle l'a coécrit avec Audrey Diwan, qui est la réalisatrice de l'événement, qui avait eu le Lion d'Or. Donc voilà, on parle beaucoup de Virginie Efira, mais il faut aussi accorder beaucoup de louanges à Melville Poupeau, qui est quand même un sacré connard. Son personnage, oui, dans le film, non, parce que. Mais d'ailleurs, je l'ai rencontré en interview et je lui ai dit, j'avais envie de vous balancer par la fenêtre. C'était horrible, parce que trop de tension, mais un très, 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 très beau film. Enfin, beau, non, Laurie, non, très.
Prenant et trop prenant, et voilà, essentiel efficace, aussi. Voilà. On continue avec un autre film cette semaine, très attendu, qui n'était pas présenté au Festival de Cannes, celui-là. Il est attendu par les petits, mais par les grands aussi, je peux vous le dire. Ça s'appelle La Petite Sirène.
Sous l'océan.
Alors là, pas
sous
du tout,
l'océan.
Pas du tout. Je ne vais pas chanter. Non.
Alors, faut dire que c'est le nouveau live action signé Disney qui reprend l'histoire culte de son dessin animé avec dans le rôle principal la sublime Halle Bailey. Et pas Halle Berry.
Non, c'est pas la même. C'est pas du tout la même. Écoutez, ça fait partie de tous ces classiques animés que Disney remet en live action. Donc La Petite Sirène arrive. C'est à peu près le même film. C'est-à-dire, vous l'avez déjà vu en dessin animé, c'est la même chose, en live action, avec Javier Bardem qui est excellent dans le rôle du père de la petite sirène. Il y a Melissa McCarthy qui fait la méchante Ursula. Donc voilà, mais à part ça, vous l'avez déjà vu. C'est un vrai plaisir à revoir.
Oui, mais ça redonne
joli, le petit poisson est très joli.
Ça donne un petit coup de modernité.
Ça donne vraiment. Il y a vraiment très bons acteurs, très bonnes actrices. Si vous avez envie de le revoir, foncez. Et qui n'a pas envie de revoir La Petite Sirène? Et vous ne serez pas déçus. Vous aurez exactement ce pourquoi vous êtes venu.
Tu m'as désobéi. Tu t'es aventuré à la surface.
Un homme allait se noyer. Je devais le sauver.
Cette obsession pour les humains doit cesser.
J'ai envie d'en savoir davantage sur eux.
Ariel, reviens!
Pauvre enfant. Je peux t'aider. Tu ne pourras pas vivre dans ce monde à moins de devenir humaine.
Mais est-ce possible?
Je ne vis que pour ça.
Didier, vous étiez présent à l'avant-première mondiale à Los Angeles.
Ouais, c'était gigantesque.
Il y avait une super ambiance.
Hollywood Boulevard, tout recouvert de bleu pour faire comme si on était sous l'océan. Et
l'océan. Pardon.
Je vais arrêter. Arrêtez, Laurie, parce que je vais encore chanter.
Ça suffit.
Vous avez perdu du public. C'était assez énorme, c'est gigantesque, c'était un très très gros
Disney. On termine avec un film qui a ambiancé le tapis rouge, c'est Omar La Fraise, présenté en séance spéciale ici à Cannes. Les séances spéciales sont les séances de minuit pour des films généralement avec des univers bien particuliers ou alors sulfureux. Celui-là en l'occurrence, c'est parce qu'il est, c'est une comédie, mais c'est un film assez violent. On en parlait avec Benoît Magimel tout à l'heure. Lui et Reda Kateb incarnent deux voyous, Roger et Omar, qui se sont installés en Algérie pour fuir la justice française. Mais forcément, tout ne va pas très bien se passer. C'est une histoire d'amitié avant tout, de galère, de magouille. C'est une magnifique cartographie de l'Algérie aussi. Un film qui montre l'Algérie telle qu'on l'a rarement vue. Et une montée des marches d'anthologie avec une ambiance incroyable, de la musique orientale. Franchement, ça a fait beaucoup de bien sur la croisette.
C'est Omar, il déprime, il veut rentrer en France.
Mais tu crois que je vais passer ma vie au bord de la piscine où il n'y a pas d'eau?
Il t'a dit quoi, l'avocat? Si tu bouges une oreille, tu vas voir, tu vas repartir au placard.
Omar, Roger, Allah, vous êtes deux légendes.
Pourquoi tu me fais des clins d'œil quand tu me parles? Tu veux me baiser?
Tu veux le baiser? On va devenir des entrepreneurs, toi et moi. On va faire de l'oseille.
Dans ce pays, tu veux devenir millionnaire? Faut commencer milliardaire.
Médiomaïs, vous l'avez vu, Omar La Fraise?
Oui, j'ai vu Omar La Fraise. Ça m'a donné envie d'aller à Alger. J'avoue que c'est très, très bien filmé. Toute la géographie du film est belle et plaisante. Eux, Reda Kateb, Benoît Magimel, s'amusent comme des fous à jouer ces voyous un petit peu en pacotille. Ils jouent un peu, ils roulent des mécaniques, mais en même temps, des mécaniques qui sont un peu rouillées. C'est très référencé. On pense à Scorsese, on pense surtout à Tarantino.
Ah oui, c'est Pulp Fiction du bled.
Mais voilà, c'est un peu ça. Mais je regrette juste une utilisation de la violence par les enfants dans le film. Ils deviennent presque le bras armé du personnage et je trouve que c'est pas assez contextualisé. Ça peut être un peu problématique à mes yeux, en tout cas, mais en tout cas on passe un bon moment et c'est fun et c'était totalement à sa place pour la séance de minuit.
Merci beaucoup à tous les deux. C'est déjà la fin de ce clap spécial en direct du Festival de Cannes. Didier Allouche, c'est un vrai plaisir de vous avoir.
Et pareillement.
Mais il va falloir retourner à Los Angeles.
Moi, je reviens
des news d'Hollywood la semaine prochaine.
Sur des terrasses avec la Méditerranée, je viens.
Thank you very much.
You're very much welcome.
Et Mehdi Omaïs, on se retrouve la semaine prochaine en direct de Roland-Garros.
Avec plaisir.
On a un gros programme, très chargé.
On va
chargé.
Faire des passing shots.
Merci à la suite Sandra Sisley de nous avoir reçus pour enregistrer cette émission. Et puis d'ici quelques heures, on connaîtra enfin le palmarès et la palme d'or qui va succéder à Triangle of Sadness sans filtre pour le film en version française de Ruben Östlund. Merci Mehdi, toujours là pour m'épauler. Film de Ruben Östlund, Ruben Östlund qui est président du jury cette année. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Pierre de Villeneuve pour Europe 1 Soir et continuez évidemment d'aller au cinéma, on ne le dira jamais assez, surtout aujourd'hui en plein Festival de Cannes alors qu'on vient de célébrer la richesse du cinéma mondial pendant 15 jours. Très bon week-end à vous, à l'écoute d'Europe 1.